d'euros hors taxes et un montant maximum annuel de commande de 4 millions d'euros hors taxes. Ce dossier a été présenté à la commission des affaires scolaires et de la jeunesse du 24 juin 2015. Il a demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer et exécuter le marché de services portant sur la fabrication et la livraison de repas et de goûter en liaison froide pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire, ainsi que tout marché complémentaire, tout amont ou toute décision de poursuivre, ainsi que les pièces correspondantes.
Oui, question.
Oui, on a bien reçu, donc ce dossier avait été présenté en commission d'appel d'offres. À laquelle je n'étais pas présente. Il y a plusieurs... donc j'avais reçu le rapport d'analyse des offres et on a quand même observé que ce rapport d'analyse des offres était tronqué beaucoup plus que... Enfin, n'avait pas le format habituel des rapports d'analyse d'offres. Donc en fait, on aimerait, s'il vous plaît, avoir le date de lancement de la consultation, la date limite de remise des offres, la procédure de mise en concurrence retenue, en fait tout ce qui est en préambule habituel de ces rapports d'analyse, parce que là on les a pas. On ne sait pas non plus si c'était un marché à bande commande, et si c'est le cas, quelles étaient les quantités minimum ou maximum. Et enfin, il y a d'autres remarques. 20 dossiers ont été retirés et un seul candidat a remis une offre. Voilà, y a-t-il une raison particulière? Autre point, pour quelle durée le marché a-t-il été attribué? Et ensuite, ouais, j'ai encore un certain nombre de remarques. Par rapport aux sous-critères retenus pour cette attribution, le sous-critère 1, donc il y avait donc une seule entreprise qui a en fait concouru. Il est dit dans le sous-critère 1, et j'ouvre les guillemets, toutefois, la durée des livraisons oscille entre 5 et 15 minutes par école, donc pour cette liaison froide. Cette durée ne permet pas un contrôle conforme à réception des marchandises. De plus, la coiffe n'est pas prévue dans la tenue cible des livreurs, donc la coiffe qui hygiénique pour la tête. Et en fait, là, du coup, par rapport à ce commentaire, on trouve que la note de 8,5 sur 10 semble un peu élevée par rapport à cette remarque. Sous critère 2, il était dit que le candidat ne précise pas en son offre le respect de l'exigence contractuelle d'avertir le groupement 48 heures à l'avance de la traçabilité de la viande bovine. Du coup, la note de 9 sur 10 qui est liée est quand même surprenante. Enfin, sous critère 3, il est dit que le candidat ne précise pas en son offre la présence de canards et de produits céréaliers au déjeuner, ce qui était donc un des aspects du... est-ce que cette clause était en fait exigée dans le cahier des charges? Concernant la phase ensuite, donc ça c'est pour l'analyse des sous-critères, concernant la phase de négociation qui aurait eu lieu, le rapport communiqué est amputé des questions posées au candidat pour arriver à la seule conclusion que l'offre d'Elior est retenue. Donc nous souhaiterions, s'il vous plaît, avoir des éléments de réponse sur l'ensemble de ces questions, voilà, et comprendre pourquoi ce rapport d'analyse des offres est si particulier par rapport au rapport habituel. Et nous souhaiterions avoir les dossiers techniques de ce rapport d'analyse des offres.
Alors, la publicité a été envoyée le 22 février 2015 sur le site de la ville ainsi qu'au WAP et qu'il a publié le 25 février 2015. La date de limite de remise des prix a été fixée au 8 avril 2015 à midi. Alors, il y a 11 dossiers qui ont été retirés. Parce que vous m'avez parlé d'un.
Oui.
Mais en fait, il y en a 11.
D'accord.
Et une seule offre en effet a été remise et on a eu une lettre de refus aussi de non-participation. Ensuite, selon les critères, alors c'est le service de l'enseignement et de la restauration qui ont travaillé sur l'élaboration des critères et c'est eux qui ont analysé les offres en premier lieu. Les remarques que vous aviez faites, que vous avez soulignées, étaient par exemple sur le canard, c'est en plus ça fait partie de nos demandes, mais je crois que ça doit être la quantité minime sur sur une période, ça peut être une fois, et figurait pas dans le marché d'avant. Donc on leur a demandé, en négociation, en effet, ils ont accepté de mettre du canard dans les menus qui nous seront proposés. Donc il y aura du canard proposé aux enfants. Après, bah, c'est ça notre marge de manœuvre lorsque le prestataire répond. On essaye, lorsqu'il n'arrive pas à répondre à toutes nos demandes, et elles sont nombreuses, en termes de qualité et de produits fournis, de pouvoir essayer de faire en sorte qu'ils puissent nous livrer, et donc, ce qui est le cas notamment pour le canard. Alors après, est-ce que je peux juste... Alors, le délai, en effet, sur les 30 minutes, c'est ça, la ville avait constaté qu'il ne fallait pas un délai de 5 à 15 minutes, mais de 30 minutes pour effectuer les délais, et en effet, la réception de la marchandise et vérifier que la marchandise était conforme à ce qu'on nous avait recommandé. Donc, en effet, c'était une large minute, donc du coup, ils s'en sont passés à 20 minutes dans le contrat, donc ils mettent 20 minutes comme c'est le cas. Tout ça, c'est des marges de manœuvre pour que ça soit livraison, même sur les horaires de livraison. On a pu négocier pour que, par exemple, ils puissent livrer à 13h dans les écoles où, c'est moins, où il y a moins d'enfants et aller jusqu'à 15h30. Alors, ça, c'est pas pour la vidéo, mais c'est compliqué. Pouvoir faire ces livraisons sur 30 minutes. Et puis les réajustements également. Donc, tout ça, c'est des marges de manœuvre. Si vous voulez, j'ai un dossier. Je ne sais pas quel dossier vous avez.
Bah, je vous le
reviendrai. J'ai 6 pages, si vous voulez, qui répondent à vos questions, donc je peux vous les fournir, il n'y a pas de problème.
Bah, je vous viens.
Est-ce qu'il y avait des points importants, parce que je n'aurais pas répondu, et que vous avez vraiment une précision particulière?
Ouais.
Excusez-moi, j'avais retenu juste...
Non, mais écoutez, je comprends globalement qu'en fait, les réponses en fait, figurent dans la négociation. Effectivement, dans le document qu'on a, il n'y a pas eu d'éléments sur la négociation. Donc, c'est du coup, avec l'élément complété, on comprendra mieux. Donc, du coup, si vous pouvez nous envoyer ce document ainsi que l'ensemble des pièces techniques, donc le règlement de consultation, les cahiers administratifs et techniques, bordereau de prix, ça, voilà, ça serait... J'étais absent cette fois-là. Et donc j'ai reçu. Et après j'ai reçu.
En fait, c'était Mme Paris qui siégeait et on n'avait pas encore nommé les nouvelles personnes. Okay, donc du coup, j'avais pas les questions. Ouais. Mais par contre, en fait, il n'y a pas de souci, c'est dans tout le dossier. Donc je peux vous apporter les éléments. Vous pouvez
continuer. Très bien. Merci. Bien. Qui s'abstient ?
Votre compte.
Merci. Dossier suivant, Mme Villard.
C'est ça qui fait plus belle. Repas du personnel de l'établissement public va être proposé en période scolaire. Alors, aujourd'hui, le personnel d'animation de l'établissement public va être Courbevoie a la possibilité de déjeuner le midi dans les écoles de Courbevoie les mercredis et les vacances scolaires. Il est proposé au conseil que la possibilité soit donnée à ce personnel de pouvoir déjeuner dans les écoles de Courbevoie les jours scolaires. Ces agents devront s'acquitter du paiement de ces repas pris les jours scolaires, selon les modalités de tarification définies par la délibération du 24 septembre 2018. La tarification en vigueur est d'un montant équivalent à la consommation d'un plat constitué de 5 composantes, soit une entrée, un plat d'accompagnement de viande ou un poisson, et un dessert, et ce conformément aux tarifs appliqués aux restaurants municipaux. Chaque convive devra demander aux services municipaux l'ouverture d'un compte CQV, car qualité ville, pour la facturation de ses repas et se conformer aux règlements CQV. Si le convive déjeune dans une école, il doit prévenir le directeur de l'accueil des loisirs de l'école de ses jours de consommation afin de procéder à la commande de ses repas. Tout repas commandé sera dû. Donc ce dossier a été présenté à la commission des affaires scolaires et de la jeunesse du 22 juin. Il est demandé au conseil de permettre au personnel d'animation du VAL de déjeuner dans les écoles de Courbevoie les jours scolaires.
Question. Il s'abstient et compte. Merci, Madame de Villard. Madame Renaud.
La réforme sur les logements de production impose aux collectivités territoriales de revoir les modalités d'attribution et de mise à disposition des logements de production affectés aux agents municipaux. Ainsi, la concession de logements aux nécessités de service, à la nécessité absolue de service, et la concession de logements aux utilisés de service deviendra la convention d'occupation précaire avec astreinte. Ces nouvelles dispositions seront mises en application au 1er septembre 2015. Ce dossier a été présenté à la Commission des finances et des ressources humaines le 25 juin 2015. Il est demandé au Conseil d'abroger toutes les délibérations relatives aux logements de fonction concédés par utilité ou nécessité de service, d'approuver les conditions de mise à disposition de ces logements, préciser dans l'annexe au projet de délibération annexé avec la convocation à la présente séance, pour le calcul des redevances, les tarifs mensuels de location applicables aux conventions d'occupation précaire avec astreinte bénéficient de l'abattement prévu, y compris l'emplacement de stationnement attaché au logement. L'autorité de M. le maire a signé tous les documents obligatoires.
Question. Oui, monsieur.
Donc, à l'origine de cette décision, il y a le décret signé en 2012 par le gouvernement Fillon, dans la période de passation des pouvoirs, et dont le but annoncé alors était de renforcer le régime de concession de logements s'appliquant aux agents publics de l'État et agents territoriaux. Pour rappeler que pris en 2012, donc en mai 2012, ce décret devait être appliqué en septembre 2012. Même si on peut regretter que le décret n'a pas été sensiblement infléchi par la suite, deux années supplémentaires ont été accordées aux collectivités en 2013 pour préparer l'application du décret initial. Comment a été mis à profit ce temps supplémentaire pour accompagner le décret de 2012, voire comment a-t-on réfléchi à un relogement progressif des gardiens d'école? La situation n'a, semble-t-il, pas été anticipée, car la délibération présentée ce soir plonge dans le désarroi, je dois le dire, toute une catégorie de personnel, comme les gardiens d'école. En effet, comment peut-on demander à des personnes rémunérées autour du SMIC de payer du jour au lendemain des montants représentant 60 à 80% de leur salaire? Cela aura de forts impacts négatifs et conduira à une précarisation de toute une catégorie de personnel, l'amenant à chercher des solutions alternatives de logement ailleurs. Compte tenu de l'offre de logement sur Courbevoie par rapport à leur salaire, ils seront contraints de se loger loin de Courbevoie, ajoutant à leur temps de travail un temps de transport conséquent. Le travail de gardien est nécessaire à la bonne marche des écoles, surtout à l'heure actuelle en niveau Vigipirate attentat, où la sécurité reste une priorité absolue. Le travail effectif d'un grand nombre de gardiens d'école est aux alentours de 48 heures par semaine, sans compter les soirs où des réunions, comme les conseils de quartier par exemple, sont organisées par les mairies dans les écoles. Comment les gardiens d'école vont-ils pouvoir continuer à assurer un effort constant, inhérent à leur fonction, s'ils sont plongés dans une situation inextricable? Voter la délibération en l'état ce soir serait porter préjudice à la façon de servir des gardiens d'école. Pour cela, eu égard aux conséquences évoquées et au rythme actuel de travail de ces agents, nous vous demandons d'envisager la classification des logements de ces agents en nécessité absolue de service, c'est-à-dire en NAS.
Merci, Mme Renaud.
Oui. Alors, cette loi, effectivement, impose aux collectivités des conditions plus restrictives, hein, dans la mise à disposition et les modalités d'attribution des logements en fonction. Je précise que cette nouvelle réforme que nous sommes obligés d'appliquer le 1er septembre prochain est lourde, c'est vrai, pour certains agents. Nous sommes conscients qu'elle peut entraîner des situations familiales compliquées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fixé les tarifs au plus bas et que nous avons pris les dispositions pour un échelonnement vers demande loyer sur un an. D'autre part, je voudrais vous préciser que chaque agent actuellement est reçu individuellement par la DRH, la MARSAT, par M. Cusé, le directeur général des services, afin d'examiner la situation de chacun, leur expliquer les nouvelles dispositions de cette loi, pour les accompagner, les conseiller, en concertation avec les autres services de la collectivité. Je parle du CCAS, du service du logement, le service de l'enseignement, justement, pour les 19 gardiens des plans scolaires dont vous parlez. Et c'est pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin, autant que personne. Si nous présentons cette délibération aujourd'hui, c'est que nous avons étudié avec beaucoup d'attention le cas de chaque agent, puisque c'était une demande importante, qui risquait d'avoir des conséquences financières non négligeables. Nous avons préféré prendre le temps qu'il fallait pour appliquer cette loi au plus juste. Il a fallu également du temps pour faire maîtriser chaque surface par un géomètre expert, les appartements, les annexes, et trouver un compromis acceptable pour les agents. en ce qui concerne notamment la redevance applicable au logement. En ce qui concerne maintenant les forfaits des charges, l'étude des consommations a été faite de façon très précise et la plus équitable possible. Nous avons vraiment souhaité faire un accompagnement social des agents le plus juste possible, et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que vous avez cette déclaration.
Vous indiquez que vous avez pris le temps. Bon, c'est quand même cette, c'est, ce décret est donc connu depuis 2012. Hein. Puisque je rappelle, c'est comme le gouvernement Fillon. Voilà. Oui, mais il a, si vous voulez, ce qui a été modifié en 2013, c'est juste un rajout de 2 années. Parce que si vous voulez, en mai 2012, on demandait à ce que à la rentrée septembre 2012, ça s'applique. Voilà. Donc c'est ça qui a été rajouté. Mais la nature même du décret, c'est le même. C'est celui qui a été pris par le gouvernement Fillon. Donc, bon, de ça. Et maintenant, vous dites que vous avez pris le temps, mais le personnel en question a été convoqué il n'y a même pas, il y a 1 ou 2 semaines. Donc on aurait pu quand même l'informer avant. Parce que bon, à ce moment-là, on peut prendre aussi ses dispositions. Mais là, si vous voulez, juste à la fin de l'année, on prévient le personnel et la rentrée scolaire suivante, le personnel doit être... reloger ou se reloger ou trouver une solution, oui, c'est un peu quand même...
Ils n'ont pas payé la totalité de leur redevance.
Oui, non, mais ça correspond...
Mais
cette
redevance, je ne
sais pas. Non, mais si vous voulez, les logements qui sont mis à disposition, on sait très bien qu'il y a un métrage, des fois, qui est important. Et quand vous appliquez le prix au mètre, ben, ça fait des loyers qui sont de l'ordre de 60 à 80% de leur salaire. Comment vont faire ces personnes?
C'est vrai, quand on a des logements de 80, 100 mètres carrés, ça peut poser quelques difficultés, c'est clair. C'est des logements qui sont même plus importants que nous. Toujours des 100 mètres carrés, d'accord.
En plus, je dirais une fois, les ATSEM ou les agents de restauration, ont le même salaire, ils se
logent. De toute façon, au maximum, je le sais bien, ils m'ont écrit personnellement, le maximum pour que tout se passe avec le moins de difficultés possible.
Je rappelle quand même que...
C'est la loi qui sera appliquée. En droit, on peut étaler. L'application, ça, c'est pas gênant. On a le temps de le faire. Simplement, il faut que ça passe pour les 7 ans. Voilà.
Mais la loi aussi vous permet donc de classer ces logements pour ces agents. Non, comme ça a été fait, par exemple, avant, ça a été fait.
Bah, ce n'est pas fait aujourd'hui.
Bah, ça a été fait avant.
Je rappelle quand même que le CCAS n'a pas vocation à aider sur des durées, très longues. On est là pour des aides ponctuelles. Donc, je veux dire, ce n'est que repousser le problème par rapport au CCAS et par rapport aux aides aux agents. Il faut qu'à terme, on trouve des solutions qui soient beaucoup plus pérennes. Donc, effectivement, on a un problème. C'est une loi. Oui, c'est une loi. Effectivement, on a un vrai souci. Mais n'empêche qu'on va avoir dans très peu de temps, d'ici 6 mois, de vrais soucis. Et je pense que les gardiens vont devoir déménager parce qu'ils ne pourront pas assumer les logements.
Pas de soucis, on fera quand il n'y a pas de soucis. L'engagement de Rambo, je ne ferai pas de soucis. Le SAD, d'ailleurs. Le syndicat aussi, je l'ai reçu, j'en ai expliqué. Comme logique. On va dire 24 heures sur la terre, c'est parfait. C'est aujourd'hui. Donc on fera le maximum. Quand je dis ça, je peux me faire confiance, on fera la solution. C'est vrai que quand on a des logements 60, 80, 100 mètres carrés, ça peut poser quelques difficultés. Je suis tout à fait conscient.
Ils n'ont pas choisi leur logement.
Ils n'avaient pas et moi non, je ne les ai pas.
Ils n'ont pas choisi le logement.
On verra bien, on trouvera la solution. Enfin, ils vont être au maximum. Si je le dis, je le crois. C'est vrai que je peux vous écouter, mais ils peuvent aussi m'écouter parce que j'ai une possibilité de faire autre chose.
Bon. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire des comparaisons par rapport aux directeurs d'école qui ont des logements à des loyers modérés? Est-ce qu'on pourrait envisager ce genre de solution?
On vote sur ça, je verrai ce que je vais faire.
Non, mais c'est une question qui est ouverte.
Bien, donc on va passer. Qui s'abstient?
S'abstient. Oui.
Attention.
Oui, s'abstient.
Je prends l'engagement de le faire. Je fais ce qu'il faut. Je ne pas sûr, mais... Merci, madame Moreno. Madame Jacob-Chaillet.
C'est la convention partenariale dans le cadre de l'implantation de ruches pédagogiques. Dans le cadre du projet de quartier autour de l'Arche des Abeilles, la ville souhaite accompagner l'installation de ruches pédagogiques dans les espaces verts. L'implantation sur le territoire communal de ruches pédagogiques présente un intérêt en termes d'écologie urbaine et permet de favoriser la biodiversité. Ces dernières nous permettent de sensibiliser les citoyens et notamment les enfants quant à la nécessité de garantir la préservation des abeilles. Un travail sur ce thème a été proposé aux écoles du quartier, lesquelles bénéficieront d'exposés pédagogiques par l'apiculteur s'occupant de l'entretien des ruches. En effet, ces ruches sont spécialement adaptées au public puisqu'elles permettent de visualiser en direct l'habitat des abeilles grâce à des parois en verre qui composent les quatre côtés. Des partenaires privés ont accepté de financer l'installation et l'entretien de ces ruches dans différents parcs et jardins de la ville. Un apiculteur aura la responsabilité de la ruche et plus particulièrement son entretien. Afin d'encadrer cet accord tripartite, une convention type de partenariat est proposée aux parties. Ce dossier a été présenté à la Commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement du 22 juin 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention type de partenariat avec la Commission de gauche pédagogique et d'autoriser M. le maire à la signer avec les différents partenaires actuels ou à venir, ainsi que tout document y afférent.
Question.
Oui.
La main, la main, là. Laissez la main.
C'est la convention de délégation de services publics pour la gestion du marché fort quartier du Faubourg de l'Arche, choix du délégataire et tarif pour les redevances de droit de place. Dans sa séance en date du 7 avril 2015, le Conseil a approuvé le principe de passation d'une convention de délégation de services publics.
C'est
la gestion d'un marché foraine dans le quartier du Faubourg de l'Arche. Ce pour une durée de 3 ans. En raison de ce montant, l'appel de cette procédure a été passé selon une procédure simplifiée. À l'issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence organisée par la ville, une première analyse des candidatures et des offres, les négociations ont été entamées avec une entreprise qui répondait aux besoins de la ville avec une situation financière satisfaisante. À l'issue de ces négociations, M. le maire a retenu la société des fils de Mme Géraud, 6, 27, boulevard de la République, à Nouvelle-Gargan. Sa proposition étant celle qui répond le mieux aux critères exprimés par la ville, les tarifs applicables soumis à votre approbation nous ont été transmis avec la confirmation à la présente séance. Ce dossier a été présenté à la commission de la vie économique de l'emploi des artisans commerçants et des marchés du 22 juin 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la désignation de la société des fils de Mme Géraud, 627 boulevard de la République, à Nouvelle-Gargan comme délégataire de services publics pour la gestion d'un marché commun dans le quartier de Faubourg de l'Arche. D'approuver la convention de délégation de services publics, étant précisé qu'elle est conclue à compter de sa notification prévue en juillet 2015, et ce pour une durée de 3 ans. D'autoriser M. le maire à signer les conventions et tous les documents des cours. Il a prouvé les tarifs de redevance du droit de
l'homme. Merci. Question ? Oui, monsieur.
Bon, le groupe Tous pour Courbevoie ne veut pas revenir sur l'opportunité d'un marché au Faubourg de l'Arche. Ce quartier manque de commerce, c'est un fait. Le point sur lequel nous souhaitons revenir, c'est la manière dont vous avez concerté les habitants sur le projet et ce que vous avez fait de cette concertation. Le dossier a été confié au conseiller de quartier du Faubourg de l'Arche, qui se sont réunis en début d'année pour proposer, grâce à l'expertise de terrain de chacun, les meilleures orientations possibles pour la création d'un marché aux comestibles Faubourg de l'Arche. Un compte-rendu officiel avait alors été rendu fin avril, puis sur cette base, un projet a été établi courant mai par le groupe de travail au Conseil du quartier public le 12 mai. En 5 points, voilà ce qui a été retenu par le Conseil à la suite de ces décisions concernées. De quartier, est-ce qu'il en est advenu dans la DSB? Alors, premièrement, sur l'opportunité des jours choisis. En conseil de quartier, il était question de tenir ce marché les mardis et vendredis, ceci pour permettre une certaine distance entre les deux jours et inciter les clients à se rendre 2 fois dans la semaine au marché. Ce qui en est advenu dans la DSB, donc le mardi a été abandonné pour le mercredi, sans explication sur le sujet avec le conseil de quartier. Ce jour a été imposé. Pourtant, le mercredi était pointé par le conseil de quartier comme le choix le moins judicieux. D'une part, non loin de là, se tient le matin même, le mercredi matin donc, le marché de Marceau. Il y a donc un risque de déperdition de clientèle l'après-midi sur le second marché. D'autre part, le marché se trouve confronté à la problématique des encombrants, sortis dès le mardi 20h et jamais enlevés, ce qu'ont constaté les habitants, le mercredi avant midi, voire plus tard, dans ce quartier. Les commerçants qui arriveront pour installer leur stand risquent de trouver les encombrants déposés sur place la veille. Pour éviter cela, la ville devra veiller à ce que, dans ce quartier, les encombrants soient retirés impérativement avant midi le mercredi. Deuxièmement, sur l'emplacement du marché. Le conseil du quartier avait préconisé que le marché soit disposé sur l'avenue Léonard de Vinci, entre l'allée Botticelli et la place Trois Frères Leboeuf, incluant la rue des Lilas d'Espagne jusqu'au millénaire. Dans la DSP, l'allée Botticelli et la rue des Lilas d'Espagne ont disparu. L'emplacement avenue de Vinci est restreint du numéro 14 au 32. À cela, principalement, on pense une raison. C'est, troisièmement, la réduction du nombre de commerçants. En conseil de quartier, il était question de déployer une cinquantaine de commerçants. En conseil public, ce chiffre a été réduit à une trentaine, chiffre validé plus tard dans le compte-rendu officiel du conseil de quartier. Dans la DSP, il ne reste plus qu'une quinzaine d'enseignes alimentaires et quelques commerces non alimentaires. Sauf erreur, aucun chiffre global n'est indiqué. Pouvez-vous, à ce sujet, nous indiquer combien de commerçants cela fera au total? À ce stade, une réduction importante du nombre de commerces ne dénature-t-elle pas le projet initial du conseil de quartier? Avec un projet réduit à 230 mètres UDR, donne-t-on un grand attrait à ce marché avec toutes les chances de réussite? Quatrièmement, encore plus lorsque l'on s'intéresse à l'offre elle-même, il y avait une forte demande du groupe de travail pour l'implantation de commerces bio. Et cela devait être demandé aux prestataires. Pourtant, dans la DSP, cinquièmement, sur les relations entre les conseillers de quartier et le prestataire. En conseil de quartier public, il a été confirmé qu'une rencontre serait organisée entre les conseillers de quartier et le prestataire. Ce dialogue demeure essentiel, sauf si l'on veut confirmer que les conseils de quartier ne servent qu'à valider les orientations de la municipalité. Reste donc une seule interrogation au final. Pourquoi une telle variation entre le projet initial établi par le conseil de quartier du Faubourg de l'Arche et le projet final concrétisé par la DSP? Ceci sans plus d'explication aux habitants qui se sont pourtant impliqués dans l'élaboration de ce projet.
Merci, Mme.
Je vous remercie de souligner que le conseil de quartier a participé largement à l'élaboration d'un projet, même si ce projet, dans l'état actuel des choses de la DSP, pas complètement concrétisé, ce qui n'empêche qu'on va faire en sorte de concrétiser au fur et à mesure de la vie de ce marché. Il faut le lancer. Vous savez très bien que lancer un marché, c'est pas si évident que ça. On ne pouvait pas lancer un marché avec 50 commerçants tout de suite, ne serait-ce que pour le quartier et pour ce que ça crée dans le quartier. D'une part, une fois les propositions du conseil de quartier faites, il a fallu valider avec les services techniques les faisabilités techniques d'installation sur un certain nombre de lieux. Et il s'est avéré que le lieu sur lequel on installe, c'est le lieu le plus conforme à une faisabilité d'installation technique. Il faut quand même un certain nombre de branchements, de piliers, de douilles, etc. Et les services techniques l'ont validé. Je vais laisser peut-être Marion Jacob-Chaillet qui a mené cette concertation pour rentrer plus sur les détails, mais il est bien évident que si on a consulté le conseil de quartier, c'est pour avoir un certain nombre de perspectives sur ce marché et qu'on continuera à travailler avec le conseil de quartier qui rencontrera bien évidemment le prestataire peut-être au bout de quelques semaines de fonctionnement pour faire des ajustements et de nouvelles propositions. C'est un marché, c'est un objet vivant. Donc il va vivre, il va naître déjà, il faut le faire naître. Donc naître sur la proposition d'un conseil de quartier en respectant un certain nombre de recommandations. Et il va vivre avec les avis des conseillers de quartier et du conseil de quartier. Voilà ce que je peux vous dire, mais il est bien évident qu'on ne peut pas tenir compte de toutes les propositions parce qu'après il y a à la fois des contraintes techniques et des contraintes commerciales. On ne peut pas lancer un marché avec n'importe quel commerçant. Il faut déjà qu'ils prennent, qui prennent corps dans le quartier, et c'est ça le plus important.
Et ça, on peut entendre sur l'emplacement.
Aussi, après,
pardon,
Donc, comme disait Marie-Pierre, effectivement, on a constaté largement au conseil de quartier, c'est effectivement des souhaits effectivement des conseillers de quartier. Sauf que par rapport à la réalité, au niveau de la rue Botticelli et l'île d'Espagne, il n'y avait aucune possibilité, puisque comme vous le savez, au niveau de la rue l'île d'Espagne, vous avez des entrées de parking avec des comptages piétons, des comptages voitures qui ont été réalisés par les services techniques. On a à peu près 5 à 7 voitures qui passent quasiment toutes les 10 minutes. Donc il y avait un vrai problème de sécurité par rapport aux clients. On avait un problème également d'implantation au niveau des arbres. Il n'y avait pas suffisamment de longueur entre chacun pour pouvoir permettre l'implantation d'un stand. Pas suffisamment de profondeur entre les murs des commerces, des immeubles avoisinants et les arbres également pour pouvoir permettre effectivement une facilité de passage des clients également sur ces emplacements-là. Donc Botticelli et les Dalles d'Espagne ont été abandonnés par rapport à ça. Deuxièmement, en dehors en plus de ces contraintes spécifiques, on a également la contrainte de la visibilité. Et il ne faut pas oublier que c'est un quartier effectivement où les gens, s'ils ne voient pas qu'il y a un marché, c'est un quartier qui est relativement fermé. Donc il faut s'ouvrir aussi vers le boulevard de la Mission Marchand et aller vers le tram et montrer qu'il y a un marché et montrer qu'il y a de la couleur, etc. Si on commence à le mettre dans les rues qui sont adjacentes, les gens ne verront pas le marché, les gens ne verront pas au niveau des bureaux qui a cette possibilité d'entrer chez eux le soir et de prendre leur RER ou le tram avec des denrées pour le soir ou pour le week-end. C'était par rapport à l'emplacement que j'avais ces raisons-là. Par rapport aux jours choisis, je reviens sur ce que vous avez dit. Effectivement, le mardi et le vendredi avaient été des jours proposés et non pas imposés par le conseil de quartier. On a choisi le mercredi justement par rapport aux encombrants, parce que le mardi, effectivement, les gens du quartier déposent dans les encombrants et très tôt, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont dans ce quartier-là avec comme tous les autres quartiers qui travaillent, qui partent tôt le matin, qui ne peuvent pas déposer leurs encombrants le matin. Donc pour un ramassage le mercredi matin, et je peux vous assurer, c'est dans le quartier Faubourg de l'Arche, à partir de midi, midi et demi, il n'y a plus rien qui traîne sur les trottoirs. Donc les encombrants sont déposés par les gens le mardi soir. Et effectivement, le mardi, se posait le problème des encombrants et ne facilitait pas justement l'installation des commerçants et permettre aux gens en même temps de déposer leurs encombrants. Il y avait deux choses en même temps, donc il a fallu choisir. Donc on a préféré effectivement le mercredi. Et je reviens par rapport à la déperdition de clientèle par rapport au marché Marceau. Je ne sais pas, monsieur, si vous êtes allé voir le marché Marceau le mercredi matin, mais il n'y a quasiment pas de personnes quartier au bord de l'Arche, car le quartier Faubourg de l'Arche, des gens qui travaillent, qui partent le matin, qui rentrent le soir. On ne voit pas bien comment ils pourraient aller au marché Marceau le mercredi matin. Donc, vous allez quasiment aller.
Pas uniforme.
Je pense qu'on a suffisamment tracté pendant la départementale pour voir la population qui allait.
Tout le monde n'est pas uniforme.
Et puis à
Marceau, il n'y a personne au Faubourg
de l'Arche. Personne du quartier Faubourg de l'Arche, donc ça ne fera aucun nombrage au quartier, au marché Marceau.
Ils auraient pu venir. Hein.
Mais ça se fout. Il n'y a pas de nom.
Je voulais préciser tout à l'heure quant au nombre de commerçants. Vous savez qu'on a, procédé à c'est une procédure de DSP simplifiée. À la rentrée, donc on est limité sur le montant des recettes, ce qui limite par la force les choses de montant.
Le nombre de commerçants, on sait combien au final.
On aura une trentaine de commerçants et toutes les choses sur lesquelles on s'est engagé, c'est-à-dire un boucher, des poissonniers, un traiteur, tout ce qui est rôtisserie, tout ce qui est fromager, primeur, marchand bio, etc. Tout sera respecté. Je veux dire, on travaille avec la société, avec le délégataire qui a été choisi. On travaille étroitement avec lui. Et je peux vous assurer que tout sera respecté. Et plus les mois passeront, plus on essaiera d'étoffer le marché et de l'agrandir en fonction des possibilités.
Il semble quand même qu'il y ait un petit défaut de remontée d'informations par rapport à... Quand le projet a été donc défini par le conseil de quartier, qu'après vous avez consulté les services techniques, bon après effectivement on a été confronté à la réalité du terrain, mais il a peut-être manqué une remontée d'informations vers le conseil de quartier pour les informer que, là, par exemple, ce n'était pas le mardi.
Vous avez quelqu'un qui, dans le conseil de quartier, Mme Greenbaum. Je suis longuement entretenue avec elle, j'ai largement expliqué, donc je ne pense pas qu'il y ait eu une remontée d'informations qui n'a pas été suffisante.
Bien, merci beaucoup. Oui, monsieur
André. Juste une remarque. Il est quand même du coup enfin, un peu curieux de, que ces problèmes d'encombrants viennent dans l'équation. Enfin, il me semble que les encombrants doivent être déposés seulement après 20 heures. Enfin, il y aurait peut-être pu, en plus, si du coup il y a de l'activité dans le quartier, contrôler.
C'est à 21h, monsieur.
Mais oui, mais donc.
Donc ça dit va créer d'accord. suffisamment de nuisances dans le quartier, et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été réclamé par les habitants du quartier, ce marché. Donc c'est vrai qu'on va essayer de limiter les nuisances. Donc on va continuer à permettre aux gens de mettre leur courant le mardi soir, effectivement, à partir de 20h, en sachant que le marché est jusqu'à 21h.
Mmh. On a pu décaler à 1h le.
Et après, vous invoquez la clientèle qui va au marché Marceau, mais où il y a toute la zone qui est Normandie, etc., oui, qui est à cheval entre les deux, et qui peut très bien aller à Marceau, mais du fait d'aller à Marceau...
Ils choisiront le marché qu'ils souhaitent, et c'est un marché de soir. Alors, les gens qui vont à Marceau le matin, parce qu'ils sont disponibles dans la journée, iront à Marceau, et les gens qui rentreront le soir à 5h ou 8h, comme beaucoup d'entre nous, iront à...
L'objectif, c'est qu'il y ait une diversité commerciale sur toute la ville. Les quartiers de la ville, c'est de la multiplier, de faire en sorte que ça satisfasse le maximum de gens, c'est tout.
L'objectif, c'est de donner toutes les chances à ce marché.
La concurrence, ça crée de l'émulation et ça permet à chacun de bénéficier de
la
L'adaptation de l'agenda d'accessibilité de la ville. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a introduit de nouveaux délais pour la mise en accessibilité des établissements recevant le public, IEFP, et des installations ouvertes au public, IOP. Il s'agit de l'agenda d'accessibilité programmée, ADA, agenda qui s'impose pour les équipements qui n'ont pas 100% d'accessibilité au 31 décembre 2014. Celui-ci peut s'étaler sur un maximum de 3 périodes de 3 ans. La mise en accessibilité des ERP est engagée à Courbevoie depuis plusieurs années, en concertation avec les associations intervenant dans le domaine du handicap, selon un schéma directeur comportant l'engagement d'une mise en accessibilité complète de l'équipement, pas de l'équipement. Or, l'équipement devant faire l'objet d'une opération de réhabilitation et de reconstruction. Ces arguments en cours d'application donnent des résultats encourageants. Il a donc été repris pour l'élaboration de la DAM, dans le cadre d'un agenda sur deux périodes de 3 ans. La première période, allant de 2015-2016 à 2018, concerne la mise en accessibilité complète du parc, hors site visé par une réhabilitation ou restructuration. La deuxième période, allant de 2019 à 2021, concerne les sites visés par une réhabilitation ou une restructuration, sachant que la mise aux normes intervient dans le cadre d'une opération. Le dossier a été présenté à la Commission des affaires sociales du 25 juin 2015 et également à la Commission communale pour l'accessibilité du 27 mai 2015. Il est demandé au Conseil de valider l'agenda d'accessibilité à date de la ville pour une transmission au préfet des Hauts-de-Seine.
Merci. Question. S'abstient. Et contre, merci pour le conseil. Nous avons maintenant décision et question. Vous avez reçu, avec la convocation à cette réunion, des décisions prises sur la base de l'article 1321-22. Avez-vous des questions à poser? Non. Bon. Nous avons des questions orales. Première question orale pour le groupe Tous pour Courbevoie. Première question.
Au conseil municipal du 15 juin dernier, vous aviez fait voter une nouvelle grille tarifaire des activités périéducatives applicables à la rentrée scolaire 2015, avec un réaménagement des rythmes scolaires et une réorganisation des TAP. Notre groupe municipal avait regretté que la nouvelle organisation n'ait pas pour objectif premier l'intérêt des élèves, mais la résorption des problèmes d'organisation que la mairie connaissait depuis un an. Les élus de notre groupe avaient alors voté contre cette délibération. Il n'a pas fallu plus de 10 jours à la suite de ce conseil municipal pour constater également que l'aménagement ne semble pas satisfaisant pour les professionnels impactés directement par cette réorganisation. Depuis le 24 juin, les animateurs du Val sont entrés dans un mouvement de grève reconductible. C'est le quatrième mouvement en deux ans. Pouvez-vous faire un point sur ce conflit social ainsi que sur les mesures qui ont été prises ou que vous envisagez de prendre pour répondre aux attentes des animateurs ?
Madame Blocul.
Merci, monsieur le maire. Lors du mouvement social du 27 mars, les animateurs ont pu notamment porter deux revendications majeures : la révision du projet TAP, notamment sur le nombre de jours et le contenu, et la révision des horaires des animateurs proposés pour proposer des horaires en continu. Les échanges du 25 mars dernier ont abouti à la signature, le 3 avril, d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des syndicats. Ce protocole a acté les points suivants. Le regroupement des tâches sur une demi-journée au lieu de 1h15 quotidien. Cette nouvelle répartition des temps permet une plage horaire plus importante pour un déroulement serein des activités et l'accès par toutes les écoles aux équipements culturels et sportifs de la ville. Il a acté le point suivant, associer les animateurs aux différentes phases de la réflexion par la conduite de longues réunions de travail avec les représentants du personnel, sans compter les réunions d'équipe dans tous les secteurs pour travailler sur les projets pédagogiques. Assurer une plus grande continuité des temps de travail pour proposer des horaires mieux regroupés, ce qui implique de diminuer le temps d'intervention du VAL. Augmenter les moyens humains et financiers pour mieux gérer l'absentéisme. Et une mise en œuvre immédiate de 4500 heures annuelles est d'ores et déjà effective. Enfin, améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire l'accès au camping scolaire pour tous les animateurs, gestion des congés et du budget, des activités par les directeurs de structure. Le Val et la Ville se sont donc pleinement engagés dans un dialogue social continu lors de ces réunions avec les syndicats depuis le 25 mars pour répondre à leurs attentes et ont déjà satisfait un certain nombre d'entre eux. Des mesures complémentaires ont été également proposées. Un contrat minimum de 30 heures hebdomadaires lycée pour tout animateur travaillant sur tous les temps. Une heure supplémentaire de préparation pédagogique hebdomadaire pour l'étape sera ajoutée dès la rentrée septembre 2015. Et la possibilité de travailler une semaine de plus en période de vacances scolaires pour les animateurs qui le souhaitent. Trois nouvelles rencontres se sont tenues les lundis 22 juin, mardi 23 juin et jeudi 25 juin avec les représentants du personnel. Au cours de ces nouvelles réunions ont été abordés et actés les points suivants. Accompagner individuellement les agents pour lesquels la mise en place du nouveau dispositif impacterait sensiblement leur quotité horaire de travail. Il a d'ores et déjà été décidé, en accord avec les représentants, un suivi personnalisé avec un correspondant identifié de la direction des ressources humaines. Celui-ci évaluera les besoins existants de la ville en termes de recrutement permettant un éventuel complément de rémunération. Cette recherche active d'activités additionnelles sera complétée par l'action du service emploi de la ville. Professionnaliser le métier d'animateur dans le cadre d'un groupe de travail permanent pour le rapprocher progressivement d'un temps de travail à 35 heures à moyen équivalent. Garantir plus de transparence en permettant l'accès facilité à l'administration du Val en vue de proposer des nouvelles idées à moyen équivalent. Enfin, améliorer les conditions de travail, à savoir préciser les conditions d'accès à la cantine scolaire, particulièrement le vendredi, comparer les mesures d'action sociale entre la ville et le Val, renforcer l'esprit de cohésion à travers d'événements, par exemple comme une journée d'accueil des sans-arrivants du Val. Au-delà de ces mesures, le Val et la ville souhaitent s'inscrire dans une perspective d'avenir en travaillant avec les représentants du personnel sur l'évolution des métiers d'animation pour assurer une plus grande stabilité et se rapprocher progressivement d'un temps de travail à 35 heures. Enfin, je tiens personnellement à vous assurer que la ville ne se désengagera pas financièrement par rapport à l'année 2014 vis-à-vis d'une réforme des rythmes scolaires voulue et non financée.
Alors, j'ai juste deux petites remarques. La première, si un accord a été signé le 3 avril, à quoi ont servi les réunions de concertation avec les parents, puisque vous avez déjà acté un TAP sur une demi-journée. La deuxième question, c'est les syndicats annoncent des réductions de postes. Est-ce que c'est vrai ou pas au niveau du Val?
Alors, pour répondre à la première question, c'est un protocole qui a été signé actant les revendications des animateurs, des représentants syndicaux des animateurs. Ce n'est pas un accord que la ville a déterminé le 3 avril. On a pris note, d'ailleurs, le protocole a été signé sur la demande des syndicats, à la demande des syndicats, par exemple. Et ce protocole reprend les revendications, il reprend également le travail qui devait être fait sur la ville par rapport à ces revendications et ce qui en avait découlé. Donc, la première revendication qui avait été portée par les syndicats des animateurs, c'est, et ce sont les propres termes qui ont été validés, un accord sur la diminution du temps d'intervention du FAL sur le temps périscolaire. Mot pour mot. Signé par les trois syndicats, il y avait 6 personnes.
Merci.
Voilà.
Ma question à moi. Allons-y. Deuxième question. Merci, madame.
Je vous en prie.
Dans le cadre du Grand Paris, deux scénarios sont actuellement proposés. Un premier scénario avec une grande boucle nord incluant les 14 communes du nord du département des Hauts-de-Seine et un second scénario avec deux territoires distincts scindant en deux la partie nord du département. Cette question a été posée par les élus du groupe pour une grande défense au CSD du 22 juin dernier. Le président du conseil, Éric Césari, avait alors répondu ne pas être en capacité de se positionner sur cette question qui relève des compétences et attributions des maires de Courbevoie et Puteaux. C'est la raison pour laquelle cette question se retrouve posée ce soir au conseil municipal. Pouvez-vous nous dire quelle est la position de votre majorité sur ces regroupements futurs?
Merci madame. Ce conseil donc sera mené à se prononcer prochainement sur un sujet lorsqu'il aimera émettre son avis sur le projet de décret. C'est-à-dire que là, je ne vais pas utiliser le 49.3 en ce qui me concerne, ça c'est un pays démocratique. Mais comme vous le savez, j'ai eu l'occasion d'exprimer publiquement ma position qui est celle d'un projet de territoire. Ma position, ce n'est pas celle automatiquement de toute la majorité. Pour la grande boucle des Hauts-de-Seine qui regroupe 15 communes de Neuve-la-Garenne, la Royaume Malmaison, actuellement Argenteuil d'ailleurs, du Quai de la Loire. Au-delà des appartenances politiques, 13 maires sur 15, de droite comme de gauche, défendent l'idée de la constitution de ce territoire qui participera à la visibilité de la métropole du Grand Paris, est encore aujourd'hui aux yeux de la population qu'une idée qui doit se transcender en une nouvelle institution territoriale appropriée par tous. La métropole du Grand Paris doit se reposer sur des territoires présentant une identité forte et des projets structurants pour faire vivre l'ensemble de cette nouvelle organisation. Les 15 communes sont reliées entre elles par un maillage de transport important qui relie notamment les différents pôles d'activité. Je peux parler des lignes de SNCF, du métro, du tramway et demain de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui sera initié par la Société du Grand Paris, qui consacre un investissement colossal d'ailleurs historique. Le territoire de la Grande Boucle de Seine se présente comme un territoire stratégique à l'échelle du Grand Paris. Il bénéficie d'une identité économique qui lui est propre, en lien d'ailleurs avec son histoire industrielle. Il se structure autour de deux pôles économiques majeurs qui ont une vocation à travailler ensemble. Je parlais du quartier d'affaires de Paris-la-Défense et le pôle logistique et industriel du port de Gennevilliers, ouvert sur la façade maritime normande. La défense locomotive économique de la métropole du Grand Paris doit s'affirmer toujours plus à l'échelle internationale. Et la création d'un cluster Paris-la-Défense que je défends incitera les entreprises, universités et grandes écoles à travailler ensemble. Il s'agit de resserrer leurs liens dans les domaines de la formation et de la recherche afin de créer des synergies dynamiques. Pour maintenir la défense comme centre décisionnel d'envergure mondiale, il est nécessaire de se tourner vers le territoire de la Grande Boucle de Seine qui dispose d'opportunités foncières, de potentiel, de mutation de certaines entreprises et de plateformes productives et logistiques comme le port de Gennevilliers, véritable porte d'entrée de la métropole pour le trafic maritime international. Certains soutiennent l'idée d'un territoire restreint au seul périmètre de la Grande Défense. Il s'agit à mon sens de porter aussi un projet de territoire solidaire. Nous devons saisir l'opportunité qui doit être offerte de créer un territoire en mesure d'assurer une solidarité de proximité qui produira plus de richesses et qui les répartira plus harmonieusement. La réduction des inégalités territoriales doit aussi être un des objectifs de la métropole. Nous en saurons plus dans le mois de juillet. Le préfet de région décidera et le préfet de département nous dira ce qu'il en est. Il n'empêche que 13 maires sur 15 sont d'accord pour qu'ils ont travaillé ensemble. On essaie d'intervenir aussi bien à droite qu'à gauche pour voir ce que nous pourrions faire. L'avenir nous dira si nous avons raison. Voilà.
Est-ce que c'est la position du maire de Puteaux?
Excusez-moi.
Est-ce que le maire de Puteaux partage cette position?
Non, pas du tout. Le maire de Neuilly non plus. Non, mais il faut dire les choses comme ça. 13 maires sur 15. Enfin, j'ai 4 maires de Front de Gauche qui partagent quand même une chose. Donc tout peut arriver quand on fait un projet, non pas de défense, mais un projet, disons, d'apporter quelque chose de plus. Voilà, en attendant, avant de partir, c'est pour ceux qui le souhaitent, nous venons d'apprendre le décès de Charles Pasqua. Pour certains, je souhaiterais, s'ils veulent rester, que nous puissions faire une minute de silence, si vous me le permettez.